Radio Barque, c'est la deuxième partie où nous recevons aujourd'hui, je le rappelle, Régis Banquet. Tout à fait à la fin de la précédente première partie, Monsieur Banquet, vous nous aviez promis une petite histoire. Alors, nous l'écoutons avec attention.
Non, je suis juste à côté d'une petite histoire. Bon, aujourd'hui, je viens de passer le cap des 60 ans et donc, comme beaucoup de gens de mon âge, lorsque j'étais enfant, bien, nous vivions en famille. C'est-à-dire que je vivais avec mes parents et mes grands-parents dans la même maison. Et nous vivions dans une campagne où, bien sûr, mon père, mon grand-père, tout le monde travaillait. Et ma grand-mère était à la maison et me gardait et faisait toutes les tâches ménagères, etc. Ma grand-mère faisait 200 à 300 mètres à pied avec deux seaux pour aller chercher l'eau à la source. Nous n'avions pas l'eau courante. Et donc, je vous garantis que quand elle ramenait les deux seaux à la maison...
Il n'y avait pas de gaspillage.
Il n'y avait pas de gaspillage et elle était très regardante sur la façon dont on traitait l'eau qu'elle était allée chercher. Parce que, évidemment, c'était très pénible. Parce que plus elle avançait dans l'âge, plus c'était pénible pour elle. Et donc, cette attention qu'elle avait pour l'eau, eh bien, ça m'est resté, quoi. C'est quelque chose qui m'a marqué et qui, aujourd'hui, devrait être peut-être... Je dirais le comportement de tout un chacun. Alors je dis pas d'aller aussi loin que ce qu'elle allait elle, mais avoir cette attention et cette protection de la ressource pour que chacun puisse en bénéficier
et comprendre la valeur de l'eau peut-être. Voilà. Oui, voilà. C'est ça. Peut-être aujourd'hui on l'a trop facilement.
Voilà. Bien, on tourne le robinet, ça coule. On ne se pose pas de questions. Absolument. Mais le jour où les gens tourneront le robinet et où ça ne coulera plus. Là, ils se poseront les vraies questions.
Oui, oui. Et alors, Régis Banquet, vous siégez dans une association, je crois, des Interco. Vous occupez justement des questions de l'eau, ce qui vous a permis, j'imagine, d'avoir eu accès à des informations, non pas seulement audoises, mais sur d'autres régions de France.
Oui, alors effectivement, je suis vice-président au niveau national de toutes les intercommunalités de France, et ma charge, je dirais, en tant que vice-président au niveau national d'Interco de France, c'est de m'occuper de toutes les problématiques de l'eau, le passé, le trop, les inondations aussi, et bien sûr le partage avec tous les autres utilisateurs. Mais au-delà, je dirais, d'avoir accès à des informations nationales, c'est très bien. Mais cette fonction me permet aussi d'avoir accès à des décideurs. Des décideurs, quand je parle de décideurs, c'est les ministres. Je rencontre, dans quelques jours, le ministre de l'Agriculture, justement pour parler de la problématique de l'eau avec lui, pour voir comment... Je dirais, l'agriculture peut se comporter dans les années à venir pour arriver à trouver peut-être un nouveau modèle de développement moins consommateur en eau. C'est des rencontres que j'ai eues dans le cadre du Conseil national de la refondation qu'a mis en place le président de la République avec Christophe Béchu, le ministre de l'écologie, pour bien discuter à la fois des problématiques de biodiversité et d'eau qui sont profondément liées l'une à l'autre. Donc, c'est cet accès à ces décideurs-là. Et bientôt, j'ai régulièrement des auditions au niveau de l'Assemblée nationale, du Sénat, etc., pour échanger avec les sénateurs, les députés, et pour essayer de les convaincre et de leur apporter un éclairage, de façon à ce que, bien, à la fois les textes qui seront écrits bientôt, les nouvelles lois, etc., quelles que soient les lois, soit très regardante vis-à-vis de la problématique de l'eau, parce que cette problématique, pour moi, elle est majeure pour les années qui viennent.
Oui. Et alors, vous me citiez, Monsieur Banquet, un exemple qui me semble intéressant, que j'imagine qui est totalement ignoré par le grand public, par exemple, détournement d'eau, c'est peut-être pas le mot qui convient, mais sur les sources de la Loire, de l'eau qui est prise pour alimenter, alors produire de l'énergie électrique, et qui est ensuite rejeté dans le Rhône. Un transfert d'eau qui peut paraître assez bizarre, finalement.
Bizarre, c'est une histoire aussi de topologie, de terrain et de vallée, etc. Donc, il y a 300 millions de mètres cubes.
C'est pas rien.
C'est pas une racine d'eau. C'est 300 millions de mètres cubes qui sont utilisés dans une centrale hydroélectrique au nord de l'Ardèche pour bien fabriquer de l'électricité, bien sûr, qui sont prélevés aux sources de la Loire et qui sont rejetés dans le Rhône aujourd'hui. C'est un choix qui a été fait il y a plusieurs dizaines d'années. Il n'est pas question pour moi de le remettre en cause. Mais ce choix risque d'interroger certaines de mes collègues élus l'été dernier à Nantes. Donc, au bout
du oui, bout à l'autre de, bout de la Loire.
De la Loire, il manquait d'eau pour approvisionner en eau potable la ville de Nantes. De notre côté, moi aujourd'hui, je fais des projets d'irrigation dans le département de l'Aude et en particulier sur Carcassonne Agglo, particulier sur le Minervois, où nous utilisons de l'eau du lac de Jouarre, mais le lac de Jouarre qui est alimenté depuis que Georges Frêche a fait cette connexion,
par de l'eau du Rhône.
Par de l'eau du Rhône. Et donc,
si
on nous enlève les 300 millions de mètres cubes, nous ne pourrons plus irriguer nos terres dans le Minervois. Voilà, Donc, c'est tout cet équilibre-là, qui est un équilibre très fragile. Et cet équilibre qui est très fragile, il faut y faire très attention. Alors, je ne dis pas qu'il faut brutalement arrêter la production d'électricité dans cette centrale, etc., et remettre de l'eau vers la Loire, etc. Mais c'est ces équilibres-là qu'il faut appréhender.
Ça doit être
appréhender
quand même. Oui.
Voilà, il faut les appréhender au niveau national. Pour ça que je dis qu'il faut des structures nationales pour définir les grandes stratégies autour de l'eau. Et ensuite, il faut des stratégies locales. Au niveau, moi, je trouve que la maille la plus intéressante, c'est l'intercommunalité, de façon à ce que, bien, au niveau local, nous puissions avoir un dialogue avec les divers utilisateurs de l'eau et les territoires voisins pour, bien, se partager cette ressource et en faire quelque chose de très précieux, mais aussi
Équitablement réparti.
Équitablement réparti, mais de très de fondamentalement nécessaire pour le développement des territoires.
Oui. Voilà. D'où l'utilité d'éviter la guerre de l'eau, en quelque sorte.
Pour moi, aujourd'hui, mon premier combat, c'est ça. C'est éviter la guerre de l'eau, parce que je ne veux pas qu'il y ait d'un côté des excités, de l'autre côté des intégristes. Voilà, c'est un peu ça.
C'est toujours le risque dans ces cas-là.
C'est toujours le risque dans ces histoires-là. Et donc, il n'est pas question de laisser faire, parce que le laisser faire engendre ce genre de comportement et engendre ce genre de guerre, et ça je veux pas y arriver, ni dans mon territoire, ni au niveau national.
Ni dans d'autres, on a bien compris.
Donc,
Régis Manquet, on reparlera de gestion des eaux avec
D'accord.
vous, certainement,
pas de problème.
De nouveau et encore. Je voudrais dire un mot également sur la production d'énergie.
Oui.
Alors, je disais tout à l'heure, vous présidez le SIADEN, donc c'est un syndicat qui s'occupe notamment d'électricité. Alors l'électricité, maintenant, ça peut se produire, alors vous l'avez dit, avec des centrales hydroélectriques, mais ça peut se produire avec des éoliennes. Encore que, petite parenthèse, les éoliennes n'ont plus le vent en poupe tellement dans notre département.
Alors, bon, aujourd'hui, je serai un peu plus modéré que vous. Je dirais qu'aujourd'hui, l'Aude produit
beaucoup.
Beaucoup d'électricité au niveau éolien et représente à peu près 25 à 30% de la production électrique éolienne au niveau de l'Occitanie. Donc, on est un fort, je dirais, producteur d'énergie électrique avec les éoliennes sur l'Occitanie. Il n'empêche que aujourd'hui, sans dire qu'il faut créer de nouveaux champs éoliens, mais nous devons arriver à concrétiser, je dirais, l'installation des éoliennes en mer autour.
Ah, ça suit son cours.
Voilà, oui, mais c'est important parce que c'est des éoliennes qui vont produire beaucoup. Et ensuite, il y a aujourd'hui dans le département de l'Aude des éoliennes qui arrivent en fin de vie. Et ces éoliennes qui arrivent en fin de vie, bien, c'est ce qu'on appelle le repowering. Il faut les démanteler et les remplacer par d'autres éoliennes. Et pour moi, il est impératif de les remplacer. Alors, l'intérêt de nouvelles éoliennes, c'est qu'elles produisent plus que les anciennes. Et donc, aujourd'hui, dans un champ éolien où il y avait 10 éoliennes, bien, avec 3 éoliennes, on peut produire la même chose. Et donc, ça diminue, je dirais, les contraintes à la fois
de gènes visuels,
au niveau des paysages, etc. Mais je suis convaincu qu'il faut conserver cette production énergétique parce qu'elle est profondément structurante pour notre territoire.
Donc pour vous, pas question de remettre en cause cet acquis-là.
Non.
Il est là, il est utile, il est incontournable.
Très, très, très utile. Et par contre, je dirais que pour tout ce qui est des énergies renouvelables aujourd'hui, le combat, il n'est pas simplement de produire. Il est surtout que la production et donc la valeur que représente cette production retombe sur les territoires. Je discutais dernièrement, bon, pour ne pas les citer, avec Total Energy, par exemple, qui Total Energy a des projets, notamment photovoltaïques ou agrivoltaïques, sur le territoire. Et j'essaie de les convaincre pour que toutes les retombées économiques de leur production reviennent au territoire et n'aillent pas, quelque part, engraisser les dividendes de Total. Écoutez, ils ont fait 20 milliards l'année dernière.
Oui, oui.
Ils n'ont pas besoin d'augmenter, je dirais, leur dividende de ce côté-là. Je ne dis pas qu'ils en prennent pas au passage, mais il faut qu'une majeure partie de ces revenus reviennent sur le territoire, en particulier d'une certaine façon. C'est-à-dire que partout où on implante des centrales, par exemple photovoltaïques, il est intéressant que cette centrale puisse produire pour les communes qui sont, je dirais, impactées par cette centrale, et que cette production qui irait en circuit court vers ces communes-là soit facturée à un tarif inférieur au tarif du marché à l'ensemble des foyers qui habitent dans ces communes-là.
Ah oui,
ça ferait une véritable retombée économique et ça augmenterait quelque part l'acceptabilité de ces projets photovoltaïques.
Oui. Parce que là, Régis Banquet, vous parlez donc des grands groupes qui produisent.
Grands groupes,
petits groupes. Oui, ou même plus petits. Oui. Mais on parle de plus en plus aussi, alors on en parle, est-ce que ça se réalise concrètement, c'est autre chose, du photovoltaïque collectif ou coopératif, c'est-à-dire des petites sociétés ou des petites coopératives qui se montent au niveau local. Qu'en pensez-vous?
Alors, j'en pense que du bien. Parce que je crois que je suis convaincu qu'il faut que le citoyen se saisisse de cette opportunité de production.
Alors, parce que là, il s'agit d'être actionnaire en plus.
Oui, bien sûr, actionnaire, mais surtout sur des unités qui sont à taille humaine.
C'est ça.
C'est pas des unités de 50, 60 ou 70 hectares. C'est des unités qui produisent sur un hectare ou deux hectares, qui produisent 1 ou 2 mégas d'électricité et qui peuvent permettre d'alimenter, par exemple, un village. C'est ce que nous faisons, par exemple, à la Roque-de-Fa.
Oui. Et alors,
à la Roque-de-Fa, nous allons produire, nous allons installer une centrale photovoltaïque totalement public, avec des fonds des communes qui sont autour de la Roque-de-Fa, bien sûr, avec la Roque-de-Fa, avec des fonds qui proviennent des citoyennes de ces communes-là, et avec des fonds qui proviennent du CIADEN, et surtout de sa société d'économie mixte, qui vont nous permettre de maîtriser totalement le projet, et donc d'alimenter ces communes-là, qui sont touchées par souvent des pannes d'alimentation au niveau
du réseau
Enedis. Et donc ça va permettre de limiter, je dirais, le temps de coupure de ces communes-là et donc d'alimenter, en cas de coupure, bien l'ensemble de ces foyers. Bon, aujourd'hui, on le sait, sur les Corbières, il y a un déficit d'alimentation au niveau de cette ligne qui vient d'Esperanza, qui fait pratiquement 90 km et donc qui est sujette à beaucoup d'aléas. Et donc ces alimentations-là, lorsqu'elles s'arrêtent, c'est parfois 1, 2, 3 jours, des fois des semaines de coupure pour ces communes-là.
Donc,
et donc
là,
ce genre d'installation permet justement de pallier à ce défaut, je dirais, d'alimentation d'Enedis, bien qu'Enedis aujourd'hui est bien conscient du problème et va faire des investissements assez conséquents pour, remettre la ligne qui vient d'Esperanza en bon état de marche. Mais il n'empêche que aujourd'hui les citoyens auront une solution de substitution pour le cas où il y a des coupures.
On fait d'une pierre deux coups, d'une certaine façon.
C'est ça.
On se produit l'électricité et puis on est actionnaire, on engrange évidemment quelques dividendes.
Et l'intérêt, c'est que les ressources retombent sur le territoire.
Oui, absolument. Dans votre commune d'Alzonne,
parce qu'on parle du livret de caisse épargne. Enfin, bon, le livret de caisse épargne, maintenant, il rapporte un petit peu plus que ce qu'il rapportait. Il a été, il y a un an et demi, il était à 0,5%. Ça rapportait rien. Un projet photovoltaïque, c'est entre 6 et 8%.
Ah oui, voilà. C'est
donc,
une autre rentabilité.
C'est une autre rentabilité pour un citoyen.
Oui. Sur votre commune d'Alzonne, vous avez déjà du photovoltaïque qui fonctionne. Sous quelle forme?
Alors, on a plusieurs types d'installations. Il y a plus d'une dizaine d'années, nous avons installé des panneaux photovoltaïques sur la salle polyvalente, dont 1300 m2. Ce qui nous permet donc de produire de l'électricité à ce niveau-là. Et là, depuis 2 ans, même 3 ans, nous avons un parc photovoltaïque qui a été installé par la société Valorem. Alors, société Valorem qui est venue faire l'investissement, qui est majoritaire dans la société de projet, mais la commune est actionnaire de la
société de projet. C'est une société girondine, je crois, qu'elle vient de la Gironde.
Ils viennent de Bègle, oui.
De Bègle, oui.
De Bègle. Et donc, moi, j'ai tenu absolument à ce qu'on soit actionnaire de la société de projet, Juste pour une simple raison, c'est que souvent, un développeur vient, il installe son parc photovoltaïque, et puis au bout de 3, 4, 5 ans, pour faire la culbute, on dit, hein, excusez-moi de ce mot-là, mais pour faire la culbute, il revend ce parc à une société,
un
fonds de pension, etc., ou à des Chinois. Et donc là, moi, je suis rentré dans la société justement pour éviter ça et être prioritaire en cas de rachat pour, je dirais, maintenir l'esprit citoyen sur ce parc photovoltaïque.
Voilà, ouais, voilà.
Parc photovoltaïque qui, aujourd'hui, dans sa production, représente l'alimentation de 2000 foyers.
Donc,
moi, aujourd'hui, sur la zone, je suis quelque part
une commune
à énergie positive.
À énergie positive. Voilà. On marque une deuxième pause sur ce slogan, Alzone, commune à énergie positive.
Merci.
Et on se retrouve, Régis Banquier, pour une troisième partie où on va aborder d'autres thèmes.